Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Thibaut. Avec sa compagne Fanny, ils ont eu deux enfants, Ellie et Tao. Il va nous raconter son histoire de parent. Quelle est l'origine de son désir d'enfant? Comment s'est passée l'annonce de la grossesse et la prise de conscience de devenir père? Le déroulement de la grossesse et l'accouchement? L'arrivée de l'enfant et l'impact sur la vie, ce qu'il a ressenti? Et puis le parcours sur les premiers instants, en tant que papa, en tant que parent. Cet épisode est une première partie, et la semaine prochaine, vous pourrez découvrir les réponses de Fanny aux mêmes questions sur la même chronologie. En attendant, je vous invite à découvrir l'histoire de parents de Thibaut, qui va répondre à la première question. Thibaut, quelle est l'origine de ton désir d'enfant? Je vous souhaite une très bonne écoute.
Bah, moi, de mon côté, j'ai toujours eu cette envie d'enfant. Elle n'a jamais été pressante ou urgente, dans le sens où... à partir du moment où j'étais ado, je me voyais quoi, un jour à avoir des enfants, mais dans longtemps, je serais vieux. trois même, je me disais. Plus dans le côté, je sais pas, avoir une famille, ça me paraissait normal, un peu dans le cliché de la vie quoi. Ça fait partie des étapes à faire et pour le coup, c'est une des étapes qui me paraissait pas la plus agréable. Après voilà, on a plutôt 20 ans et c'est moins pressant ou urgent. Et mais toujours avec en me disant un jour j'aurai des enfants. Ça, c'est vrai que je me le suis toujours dit. Et puis la question s'est jamais vraiment posée sérieusement avant justement de rencontrer Fanny où là je me suis dit je me vois me projeter à fonder une famille, à faire des enfants avec cette personne quoi.
Selon toi, ce serait correct de dire que c'est ta rencontre avec Fanny, le couple que vous avez démarré, qui a été le déclencheur, le catalyseur de ce désir d'enfant qui était là, et puis tout à coup, tu t'es dit, tiens, là c'est maintenant. Quoi. Là, c'est...
Ah oui, c'est sûr que je ne m'étais jamais projeté avec un désir d'enfant avec quelqu'un avant, Fanny. Voilà, l'envie de faire des enfants, elle est venue par un autre biais qui n'était pas forcément au début planifié, dans le sens où voilà, par exemple, on peut parler de comment ça s'est fait, comment on a fait avec
tout le monde le sait.
Non, comment on a pris cette décision quoi.
Alors là, je m'attendais pas à une telle exclusivité. Vas-y, je t'en prie, raconte-nous la prise de décision pour l'enfant.
Bah, c'est vrai que ça s'est fait de manière un peu... à la base, quand on s'est rencontrés, c'est vrai qu'Ellie, notre premier enfant, elle est arrivée assez rapidement d'un point de vue vie de couple, on pourrait dire. C'est-à-dire que 6 mois après notre rencontre, en tout cas le fait qu'on soit ensemble, Fanny était enceinte.
Ah ouais.
Donc ça peut être rapide.
Pour te donner un ordre de comparaison, nous ça a duré 12 ans.
Ah, voilà. Voilà. Et j'en connais qui sont plutôt sur sur cette temporalité là. En fait, de notre côté, on va dire c'est ce qu'on appelle une frayeur entre guillemets à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a cru que Fanny était tombée enceinte et du coup on s'est dit wow, enfin voilà, tout le côté c'était pas du tout planifié, enfin pas non plus la panique parce que on se dit bon bah voilà, on va aller faire le test, donc c'est vrai que déjà le fait de se dire faire un test de grossesse ça fait même ça sonnait un peu trop adulte par rapport à où on en était psychologiquement, et puis au début de notre relation. Et il y avait mes parents qui étaient là le week-end, qui sont arrivés au moment où le test devait se faire, quoi, où on pouvait avoir la réponse. Donc, on a su ça un peu en le faisant en cachette entre nous, entre guillemets, voilà, ce petit stress de savoir est-ce qu'il y a un bébé qui pousse d'ores et déjà ou pas. Et bah, c'est vrai qu'au final, on a eu le test négatif. Je me rappelle, on était dans la voiture de mes parents derrière. Fanny, elle s'était empressée à la première occasion d'aller aux toilettes juste avant qu'on aille au resto ou je sais plus quoi d'ailleurs. En plus, bah voilà, c'était aussi une des premières fois qu'elle rencontrait mes parents. Donc c'était assez particulier quoi, comme environnement. Et en fait, il s'avérait que le test était négatif. Bon. Et au final, ben en fait, on s'est regardé et en fait. Bah un peu déçu, quoi. C'est vrai que les quelques jours qu'on a eus, le fait de, je sais pas, en parler, sans dire se projeter, mais en fait y réfléchir, se dire, enfin voilà, on a vu ce test, puis on s'est dit, bah mince, en fait, je suis un peu déçu, quoi. Et ça, bah, ça a ouvert grand la porte à une discussion beaucoup plus sérieuse sur, bah, est-ce qu'on le veut? Est-ce qu'on le fait? Et en fait, oui, on s'est lancé. Et il a suffi enfin et le mois d'après Fanny était enceinte pour de vrai là.
Bam,
Donc
oui,
c'était
efficacité.
bah, efficacité, ce qui fait aussi que voilà, c'est vrai que 6 mois ouais 6 mois après voilà. Et pour le coup, ça a surpris plus d'une personne, mais c'était totalement voulu de notre côté, mais ça s'est un peu fait comme ça en fait le désir, la conversation s'est ouverte sur un. Ben voilà, sur un première enfin voilà, on a cru et après on a voulu.
Et pour le coup, comment ça s'est passé là, cette annonce de grossesse? Comment est-ce que toi tu l'as reçue? Est-ce que vous avez refait ensemble le test? Est-ce que c'est Fanny qui l'a fait toute seule? Est-ce qu'elle te l'a annoncé? Vas-y, raconte-nous
Bah là
comment.
aussi c'est un peu entre guillemets original, même si j'ai plus trop les détails à vrai dire de pourquoi, mais en fait ça verrait que donc là on avait été enfin Fanny avait fait le test sanguin au labo, donc il y avait un délai avant d'avoir le retour, et en fait alors elle avait un rendez-vous, une contrainte professionnelle, je sais plus, je crois que oui d'ailleurs, elle était partie au boulot. Et le moment où la réponse était disponible, bah, il n'y a que moi qui suis allé au labo pour aller chercher les résultats. Donc en fait, moi je me rappelle en plus c'était une après-midi où on avait fait une après-midi de parc avec des copains, où voilà, on s'assoit dans l'herbe, on traîne, etc. Moi j'étais plutôt dans une ambiance, j'étais censé être dans une ambiance apéro, détente, etc. Mais avec une arrière-pensée perpétuelle de est-ce qu'il y a un bébé, est-ce qu'il y a un bébé, est-ce qu'il y a un bébé, sans pouvoir le dire aux autres. J'ai
Ouais.
trouvé une excuse bidon pour aller au labo. Et puis au labo, ouais, je me rappelle de la personne qui me dit ah, ben, j'ai pour. Enfin, je lui donne le nom et puis elle me dit eh ben, ah, ben, félicitations. Ok, bon, bah, et j'ai reçu, je suis sorti un peu groggy du labo de l'annonce. Et du coup, c'est moi qui ai confirmé, qui l'ai annoncé à Fanny, pour le coup, en toute simplicité, parce que de toute façon, elle savait que j'allais chercher le test, et puis j'ai pas fait traîner le truc parce qu'elle était impatiente d'avoir l'info, mais je l'ai tout de suite appelé, et puis voilà, l'aventure était lancée, quoi.
Et alors, est-ce que tu prends conscience à ce moment-là que tu vas être papa? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est tu te dis putain, ça y est quoi?
Non, je crois pas. Je
Non.
crois pas. Je crois que c'est tellement compliqué, je trouve, de se projeter là-dedans. Je pense que j'ai commencé par mettre ma casquette d'accompagnateur de grossesse. Enfin, c'est comme ça que je me suis autonomé après, ou en tout cas avec le recul. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bah, fin son, là, pour l'instant, enfin, il y a 9 mois, mon rôle, c'est plutôt de prendre soin de Fanny et le bébé, on verra après, quoi. Je me voyais pas trop, surtout quand, voilà, on va faire des échos et puis on nous dit c'est la taille d'un grain de riz. Et bon, bah, voilà, c'est un grain de riz pour l'instant.
on avait fait ça aussi avec les raisins, la mangue et tout, c'était rigolo.
Ouais.
Et toi, t'as ressenti quoi Parce que tu vois, tu disais que tu étais un peu groggy en ayant l'annonce, mais concrètement, en toi, il se passe quoi au moment où, bon, au moment où tu reçois la nouvelle, mais aussi au moment où tu le dis à Fanny, quoi. On vous retrouvez et que voilà, c'est le moment. Tu passes par quelles émotions, quoi?
Je pense que c'est un peu vertigineux. Mais c'est vraiment difficile parce que c'est d'un seul coup, il y a comme une chape de responsabilité qui arrive, quoi. Où on se dit, quand même, quoi. C'est pas un engagement à la légère, quoi. On va être responsable, en tout cas, pendant un paquet d'années d'une vie. Donc, je me rappelle pas si j'arrivais à me projeter vraiment là-dedans. J'étais plus dans le waouh. Et puis, en fait, on commence cette aventure à deux, convaincu, en tout cas, du désir. À aucun moment, j'ai eu un regret ou une peur en me disant non mais mince, tu sais, une ou deux semaines après, ce qui pourrait être légitime en soi, hein, de se dire putain, on n'aurait pas fait une connerie ou autre. Ça a jamais été le cas, mais non, l'excitation en fait.
Excitation, ok.
Ouais, je pense que ça a rapidement prédominé. Ouais, j'ai ce souvenir un peu de vertige, de se projeter, de se dire Ah, je vais devoir être responsable, quoi.
Mais ouais, c'est ça. Putain, c'est plus moi l'enfant, quoi.
Ouais.
Je vais être le parent.
Bon, en fait, on peut être parent et rester enfant, mais...
Exactement.
Mais on le sait pas au début.
On le découvre après. Parfois, c'est grâce à notre enfant qu'on le découvre.
Ouais.
Et pour le coup, le déroulement de cette grossesse, comment ça se passe? Tu es donc donneur de soins envers
donneur de soins, ouais. Ouais.
Et... raconte-nous un peu comment ça se passe. Tout se passe bien, c'est un long fleuve tranquille. Tu ne doutes pas pendant 9 mois. Tu dis que tu as géré parfaitement. Vas-y, raconte-nous.
Alors ça en plus, je pense que ça lui fera plaisir parce que ça, c'est vraiment la partie qu'elle adore que je raconte. Mais moi, dans mon souvenir, les 3 premiers mois étaient vraiment pas simples.
D'accord.
Dans le sens où, après, c'est connu hein, que le premier trimestre, c'est pas toujours le plus facile pour les femmes. Physiquement ou autre, mais là je pense que c'était aussi d'un point de vue hormonal, c'était plus compliqué à gérer ses émotions pour elle.
C'est-à-dire
je trouvais que c'était
c'était balance.
Ouais non, c'était difficile. Moi je l'ai vécu des fois comme étant oh putain, elle est dure là, mince, putain, elle s'énerve rapidement, des trucs comme ça, ou sachant qu'on était encore un jeune couple aussi à ce moment-là.
Ah
c'est
oui.
Vrai que là, ça compte aussi. Donc, j'ai jamais été pareil, hein, j'ai pas eu de doute quant à Fanny, au désir d'enfant ou à mon amour pour elle, mais je me rappelle que les 3 mois, je me disais. C'est rude quand même, en fait. Excusez-moi les femmes, hein, mais un peu comme des règles perpétuelles de 3 mois. Il n'y a pas de cliché. Hein,
un petit peu quand même. un petit peu.
Mais... parfois, voilà, on va dire que parfois c'est.
C'est un long SPM, quoi. C'est un long.
Ouais, c'est ça. Mais que je comprends. Je ne suis pas en train de dire elle est cinglée ou autre. Je le comprends. Mais ça ne rend pas le fait de le vivre moins plus évident. Après, voilà, hein, j'exagère un peu, mais en fait, après, on a trouvé notre rythme, elle a trouvé son rythme de grossesse, enfin, je l'ai ressenti comme ça, et ensuite, on était plutôt dans la préparation, et je me rappelle, après, j'exagère, hein, c'était pas 3 mois, hein, c'était plutôt un ou deux. Parce qu'après, il y a eu toute une phase où on a commencé à préparer l'annonce, quoi, le fait de vouloir l'annoncer. Donc, c'est vrai que ça, c'était aussi une autre étape. Parce qu'au début, c'est notre petit secret à deux, à trois, avec Piu-Piu, qu'on appelait dans le ventre. Et là, après, il a fallu le partager avec les autres, quoi. Et ouvrir un peu ce projet et où on en était. Et ça, c'était aussi une étape importante, j'ai trouvé. Parce que ça rendait la chose concrète, quoi.
Et comment tu l'as vécu, toi? Tu ressentais quoi? Vous l'avez annoncé à qui? À vos parents? À vos amis?
On a fait parents. On a commencé par les amis proches. Parce que on les voit tout le temps. Et avec aussi une réalité pratique qui est les apéros. les petites fins d'après-midi au bar ou les choses comme ça, sans être alcoolique. Enfin voilà, si pendant enfin 3, 4, 5 sorties de suite, elle commande un sirop plutôt qu'une pinte, ça va mettre la puce à l'oreille. Donc,
ouais, on surtout l'a si c'est pas dans ses habitudes.
Ça. Non, on l'a pas dit pour ça, parce que. Mais ça a fait partie des éléments. Et puis, de toute façon, on s'était dit, on veut le partager avec les autres. Donc, quel que soit le. Enfin, parce que voilà, il y a la tradition des trois mois, mais on s'est dit, en fait, c'est des gens qu'on voit tout le temps. Dans tous les cas, on le partagera avec eux si jamais il se passait quelque chose d'un peu moins rigolo, quoi. Mm. Donc autant le dire tout de suite. Pour on a attendu, je crois que c'était un mois et demi, deux mois avant de commencer à en parler. Et on s'est lancé dans un projet, c'était de d'essayer de filmer la réaction de nos amis pour faire un petit montage à la fin.
C'est bon ça.
Ouais, ça c'était assez rigolo, sachant que ils s'y attendaient pas. Ouais. Voilà, on n'était pas un couple de 12 ans qui a passé la trentaine et qui se dit où tout le monde s'attend à ce que ils fassent les bébés parce que tout le monde en fait. Déjà, personne n'en avait autour de nous. Donc, c'était pas encore du tout dans l'actualité des groupes d'amis, quoi. Que ça soit, maintenant, c'est la même chose, mais réciproquement, le sien et le mien. Donc, on a plutôt réussi à prendre les gens par surprise et ça a fait quelque chose d'assez... beaucoup, beaucoup d'émotions à chaque fois. Et ça, c'était vraiment chouette. J'avais l'impression qu'à chaque fois qu'on l'annonçait à quelqu'un, ça re-rendait la chose encore plus réelle et ça nous reprojetait dans cette envie et vraiment une sorte d'euphorie. Là, c'était devenu plus de l'euphorie à ce moment-là de partager ce projet avec les gens parce qu'on voyait qu'en plus, ils étaient ravis pour nous et, et qu'on disait que voilà, c'est... petite pioupioute là, elle va rencontrer tous ces gens qu'on aime et ainsi de suite et eux ils vont la rencontrer et ça c'était chouette de se projeter comme ça.
Au niveau de la grossesse, toi, comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti utile? Est-ce que tu t'es senti suffisamment proche? Est-ce que tu penses que t'en as pas fait assez, trop?
Là, moi personnellement, j'ai toujours eu l'impression de vraiment d'être le remplaçant, quoi. Enfin, d'être sur le côté d'accompagner. C'est pour ça que moi je m'appelle accompagnateur de grossesse parce que j'ai pas l'impression d'être acteur. Après. Fanny, elle m'a souvent dit que c'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on n'est pas en contrôle, c'est pas nous qui avons les contraintes, c'est pas nous qui avons les ressentis, donc c'est plus compliqué d'avoir, de mon point de vue, d'avoir un pied d'égalité pendant la grossesse. Après, il y a quand même tout le parcours qui aide, voilà, les rendez-vous de préparation, les échos, les rendez-vous de contrôle, enfin, à chaque fois, voilà, on discute avec le professionnel, on comprend ce qui se passe, donc on est dans une phase d'apprentissage aussi, on apprend plein de nouveaux mots, de nouveaux termes, qui est assez sympa aussi, et puis une autre intimité qui se développe aussi entre nous, je trouve, et je pense que là, que ça soit quelques mois ou beaucoup d'années, on ouvre une autre porte, en fait, dans la relation quand on partage ça, cette aventure. Donc, on se découvre sous d'autres aspects aussi. Et c'est vraiment...
Et puis ça brise des tabous.
Ouais, alors là, clairement. c'est vrai que la pudeur des choses comme ça, et ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs, parce que je trouve que ça nous rapproche. Après, de plus en plus, je me suis senti utile. Après, moi, j'étais aussi un peu plus... je prenais plus soin d'elle qu'elle-même. Surtout que... c'était... elle travaillait encore dans le social avec des enfants porteurs de handicap, donc qui était aussi contraignant en termes d'horaire et même physiquement, parce qu'elle devait aider des personnes qui pouvaient être polyhandicapées, donc c'est-à-dire soulever des personnes et ou alors finir à 21h et rentrer avec une heure de bus, sachant que elle a pas arrêté tout de suite. Et qu'on est arrivé autour de 7 mois de grossesse, avec ça lui était arrivé 2-3 fois de faire un petit malaise vagal dans le bus
Ah ouais.
ou d'avoir une petite douleur par-ci. Et moi je me disais bah en fait non, désolé, mais enfin moi j'insistais beaucoup sur le côté en fait ça vaut pas le coup de mettre en danger le bébé jusqu'à un certain point. Enfin t'es pas assise derrière un bureau là, t'as vraiment des contraintes physiques qui pourraient créer des choses qu'on regretterait toujours quoi. Donc je sais que je l'ai beaucoup insisté là-dessus, un peu protecteur à ce niveau-là, mais c'est là-dessus où je me suis senti que au moins moi j'avais un levier d'action, c'était sur un peu la contraindre ou en tout cas l'encourager à se ménager quoi.
Et t'es pas allé chercher des fraises en plein milieu de la nuit. C'est bon,
Je l'ai pas trop eu ça, hein.
ça,
J'ai pas eu l'impression, genre non. Par contre les massages. Ça, je suis devenu un excellent masseur de pieds
Ah oui.
en 2 grossesses là. Aider pour enfin voilà tout ce qui était les douleurs ou après voilà le moment où on aide à mettre les chaussettes et les chaussures ou les petites étapes comme ça qui font qu'on se rapproche de plus en plus aussi du réel, un déménagement pour avoir la chambre du bébé parce qu'on voilà on se projetait aussi dans quelque chose de assez classique en tant que néo-parent, donc on s'est dit bon bah on va avoir un bébé, faut que le bébé il ait une chambre quoi.
Ouais,
On peut trop chercher plus loin au début.
ma foi.
Donc on a trouvé un autre appart et puis voilà bon an mal an, on est arrivé comme ça 8 mois 9 mois et tout s'est bien passé hein. Donc ça c'était, enfin voilà, super. Enfin, moi j'ai un bon souvenir de la grossesse à ce niveau-là. En tout cas, oui.
Et donc beaucoup de massages de pieds.
Ouais, énormément, ouais.
Je sens qu'il y en a certaines vont peut-être jalouser
Ah
ce
bah,
que j'ai fait là.
vraiment là, je suis pas en train de. Enfin, voilà, je suis plutôt humble hein, comme personne, mais je pense que je suis devenu un très bon masseur de pieds.
Après 2 grossesses, je suis
Ouais, carrément.
réflexologue.
Je vais passer un CAP en 2-2.
Alors, on a passé la grossesse. Si je comprends bien, accompagnateur de grossesse. Beaucoup, beaucoup prendre soin d'elle, très à l'écoute, à disposition aussi.
Ouais.
De ce que je comprends, tu as réussi à être beaucoup disponible, donc ça c'est chouette. Excellent masseur de pied,
Ouais.
on va arrêter de le dire après quand
Ouais, c'est bon,
même. et donc, arrive la fin de la grossesse, arrive ce fameux moment de l'accouchement. Comment tu le
ouais.
vis, toi?
Alors
Vraiment toi,
moi,
vraiment toi. Hein. Je
ouais,
sais
moi.
que l'accouchement, c'est la femme qui fait le gros du boulot, tout ça. On n'est pas dans un podcast où
OK.
on remet pas ça en question. Et surtout que Fanny aura la parole après pour exprimer son retour. Toi,
Ouais.
c'est vraiment toi, comment toi tu as vécu cet accouchement, quoi.
Eh ben moi, l'accouchement, je me suis ma mission première et mon plus grand stress, c'était l'amener à temps à la maternité.
Ok.
Mais enfin, Didi, en gros, à partir du moment où ça commence, je vais être complètement démuni. Je me voyais démuni et, enfin, vraiment spectateur de ce qui allait se passer par la suite. Je dis, toi, ton seul boulot, c'est de l'emmener auprès de gens qui vont savoir quoi faire. On a fait un projet de grossesse où enfin d'accouchement où on visait un accouchement physio et ce qui fait que ben la maternité c'était pas forcément la plus proche du domicile.
Ça
Donc
arrive, ça.
pour les locaux enfin nous on était dans Lyon et la maternité à Givors. Donc c'est facilement au mieux une demi-heure de voiture quoi.
Ah ouais, quand même.
Donc, moi, je trouvais ça stressant, une demi-heure de trajet
Ah ouais, je
avec,
comprends, je comprends.
avec les contractions, sachant qu'elle était assez détendue. Mais après, on va dire que l'accouchement, bon, déjà, enfin, j'ai réussi ma mission, hein, je l'ai emmenée à la maternité. Donc,
C'est bon.
ça,
Donc en
c'est
fait,
bon, c'est fait.
tu l'as déposé devant, t'es parti.
Bon, je me suis dit, c'est bon,
Ouais,
enfin,
ok,
maintenant, c'est
c'est bon.
fait, je ne sers à rien maintenant.
Très bien.
Alors, de toute façon, c'était assez long, hein. Ça a été assez long, le premier. Donc,
Ah ouais,
j'ai eu le
c'est-à-dire.
temps. Bon, je crois qu'en tout, elle arrivait au bout de 17 heures. C'est pas le plus long, hein, mais c'est déjà un temps assez correct, quoi, pour un premier. Moi, l'accouchement, bah, une fois que de toute façon on était arrivé à la maternité, on se laissait guider un peu par les professionnels, sachant que ah si, l'arrivée était cocasse. Parce que, bah, en fait, il y avait personne à l'accueil, donc on est un peu, on avance, on nous dit allez par là, et en fait, on s'est retrouvé au service gériatrie, et pas la même ambiance, hein. Vraiment pas quoi. Wow. Vraiment beaucoup plus austère, moins de couleurs, enfin pas bonne vibe ça. Donc on va vite retourner. Et puis on était aussi tombé sur ben voilà une porte entrouverte avec des cris de quelqu'un qui était en cours d'accouchement. On dit,
Ah ouais.
ok, on est plongé dans l'ambiance là.
Ouais. Au moins vous êtes là. Au moins vous savez
Au
que c'est
moins,
bon.
c'est bon, c'est ici que ça se passe, quoi. Mais après, ça va, on nous a accueillis, on nous a emmenés enfin voilà, tout le pré-travail dans la chambre. Et puis là, c'est un marathon qui commençait, quoi, de nuit blanche. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une nuit blanche à cette époque-là. Et puis en plus, vraiment, la nuit blanche, bah, sans bière, sans café en plus. Hein, donc, c'était. Il n'y avait pas de problème pour rester éveillé, hein, mais.
Il est quelle heure quand vous arrivez? Tu te rappelles?
Je sais que ça devait être autour de 16h quand ça a commencé, les premières contractions. Le temps de rentrer, un petit plat, un truc comme ça. Je pense qu'il était 18h30, 19h quand on était là-bas.
Ok.
Peut-être, ouais. Et après, il est arrivé sur les coups de 10h le lendemain. Donc, ouais, ça fait ça. Bah après, je me rappelle, enfin voilà, j'étais DJ musique, j'étais co-assistant respiratoire,
Ouais.
donc voilà, faire les bois, le ballon, apporter l'eau, hydrater, enfin voilà, pour le coup, à l'écoute, mais un peu, en fait, j'étais stressé je pense, je voulais. Si, en fait, j'avais hâte de savoir que les deux aillent bien, quoi. Je me rappelle de ce sentiment, quoi, où de toute façon, moi, je peux pas faire grand-chose, juste vite, enfin, pas forcément vite, mais au moins d'être sûr que Fanny et Ellie seront là toutes les deux et aillent bien, quoi. Mais ce qui est vrai, c'est que je trouvais pas le temps long. Et puis, par contre, j'ai fait l'erreur. Parce que bon, voilà, c'était pas forcément l'accouchement le plus simple. Et à un moment, on nous a annoncé, là, dans l'heure, votre bébé devrait être là. Il était minuit.
Ok.
Donc moi, j'ai fait la bêtise de commencer à envoyer un ou deux messages, quoi. En disant, ouah, ça y est, ça arrive, elle sera bientôt là, etc. Et sauf qu'après, bah, j'envoyais plus de messages. Et je me faisais harceler par tout le monde, donc ce qui est pas forcément évident dans le feu de l'action entre, enfin voilà, tout ce qui se passe autour, le personnel, le stress,
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et ouais, c'était. Je me rappelle, c'était éprouvant, quoi, comme épreuve. Voilà, à échelle d'homme, précise, hein,
Oui,
éprouvant, voilà.
tout à fait.
Mais.
On l'a bien précisé au début, tout va
Oui, oui. Je prends toujours des pincettes,
bien.
parce que on a tellement conscience qu'on joue pas le même match, quoi.
Non, c'est sûr qu'on joue pas le même. Nous, on est plutôt les pom-pom boys, tu
Ouais, exactement, ouais.
vois.
Donc c'est bien aussi, hein. C'est
C'est
important.
très bien, c'est important de supporter et de soutenir. Et moi, ça me. Enfin, je comprends tellement ce que tu évoques en disant ce que je voulais, c'était savoir que les deux vont bien, quoi. Enfin, que ça se termine, que les deux vont bien. Moi, j'ai ressenti tellement la même chose, tu veux, que c'est vraiment ça, quoi. Et pour le coup, quand il y arrive, là, vraiment, le moment de l'accouchement, là, tu vois, c'est...
Ouais.
Comment tu te sens, là?
Elle n'est pas arrivée facilement. Donc j'avais peur pour Fanny. J'étais impressionné par... vraiment, il y a une force qui se dégage des femmes à ce moment-là qui est vraiment très impressionnante, quoi. Et c'était vraiment pas simple. Pour elle, les forceps, l'intervention il y avait 3-4 personnes autour, parce qu'il y avait des complications qui étaient un peu embêtantes. Et ils ont laissé le temps de la poussée, qui a été très longue. Pour le coup, dans d'autres hôpitaux, ça fait longtemps qu'on aurait été en césarienne. Mmh. Et en fait, il y a un moment où tout s'accélère. C'est quand je sais plus quelle personne a dit « Bon, là, il y a le cœur du bébé qui commence à ralentir. Donc là, il faut accélérer. » Moi, j'étais surstressé, quoi, à ce moment-là. Tendu, à tenir la main, encourager, aller. Et puis là, il y a la délivrance, il y a le bébé qui est là. Et là, toutes mes émotions qui jaillissent, quoi. Alors, je fais, c'est pas pour le cliché garçon, mais c'est vrai que je pleure très rarement. Les émotions, j'ai pas de problème avec ça, mais j'ai rarement l'effet larme qui vient. Mm-hmm. Mais alors là, le torrent, quoi. Ah, elle est là. Et puis, je voyais que, voilà, Fanny aussi, ça allait bon gré mal gré, ce sentiment de waouh, ça y est, c'est réel, maintenant c'est pas juste le bébé du ventre, elle est là. C'était la première phrase que j'ai dit quand je l'ai vue sortir. Ça y est, elle est là, avec les larmes là de partout, et beaucoup de soulagement aussi à ce moment là quoi.
Ouais.
Et ça, c'était c'est vrai que ça reste gravé, ça.
Ça, je comprends parfaitement ce que tu parles. Et quand c'est que tu l'as eu dans les bras pour la première fois, pour le coup, Ellie?
Tout de suite, parce que du coup, ils ont dû s'occuper de Fanny. Mmh. Il y a eu une partie soins qui était tout de suite. Donc moi, je me suis assis à côté pour être en visibilité, quoi. Elle a été un peu si, elle a été un peu sur le ventre de Fanny, mais rapidement ils ont dû passer aux soins, donc dans les 5 minutes je l'avais sur moi à côté, quoi.
En peau à peau.
Et mais très impressionné, en fait. C'est vraiment impressionnant. Après, ils sont tout petits, on passe notre temps à dire qu'ils sont tout petits, mais sur le moment, je me rappelle, c'était waouh. Collée sur moi, là, elle est sortie plutôt propre, mais c'était, vraiment, je l'avais contre moi, et puis je la montrais autant que possible pour qu'elle se concentre aussi sur Ellie qui venait d'arriver, et pas forcément sur la suite de l'accouchement, qui est pas forcément aussi rigolo, mm-hmm. Pareil, ces premiers instants, à son grand regret, j'ai pas eu le réflexe de prendre une photo ou une vidéo sur le moment où j'étais plongé dans le présent. C'est sûr que le deuxième, j'ai pas fait l'erreur. Mais là, j'étais plongé dans le présent, et c'est vrai que on n'a pas de souvenir des premières heures quand il est arrivé, mais elles sont gravées là, dans la tête, en tout cas.
Ouais. Ouais, je comprends, c'est vrai que c'est très fort, et puis il y a aussi ce moment où en fait tu t'es tellement dans un truc nouveau, un peu hors du temps, que toutes ces considérations, tu n'y penses pas forcément, quoi.
Ouais, c'est ça, hors du temps, comme tu dis. Ouais.
Ces premiers moments avec votre premier enfant, avec Ellie, qu'est-ce que ça a changé là dans l'immédiat
Alors c'est vrai qu'après, avec Ellie, on est rentré à la maison. Et puis, je sais qu'on a passé beaucoup de temps au début à la regarder, quoi. Je pense qu'il y a pas mal de jeunes parents qui doivent faire ça. mais très, très stressé, et puis très, Je pense qu'on était aussi à se dire, bon, bah, il y a un protocole de bébé à suivre, et puis bah, on va le suivre en fait, parce que apparemment c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, le moindre pleur ou les choses comme ça, on a toujours se demander ou imaginer le pire sans être. Parce qu'on ne sait pas, le moindre pleur nous effraie. Une température un peu haute, on se dit, est-ce qu'il faut l'emmener à l'hôpital? Je me rappelle un peu de ça. Et après, mais en parallèle, beaucoup de fierté aussi à accueillir les proches pour qu'ils la rencontrent, la présenter. Ça, c'était un vrai bonheur aussi. Là, par contre, on a eu le temps de se rattraper sur les photos, hein. Il y a plein de photos d'elle toute petite. Après, c'est sur quelle période tu posais la question sur les.
Bah, c'est vraiment ouais, les premiers temps. À quel moment, alors, parce que des fois on s'en rend compte et des fois on s'en rend pas compte, mais à quel moment tu t'es peut-être aperçu que là, voilà, votre vie avait changé, quoi.
Bah, ça, c'est tout bête, hein, mais je pense que un des marqueurs. Bah, ça prend du temps, on le sait, avec un bébé ça prend du temps. Donc avoir moins de temps pour des activités personnelles ou de disponibilité, enfin peu importe, on s'y attend. Que ça nous prenne tout notre temps et une bonne partie de notre énergie, il y a une phase d'adaptation quand même. Et là où Ellie, elle a eu très rapidement, c'était le lâcher prise pour le sommeil qui était pas forcément simple. Elle dormait très bien, mais elle s'endormait très tard.
Ah
Donc c'était souvent minuit passé, quoi.
ouais.
Donc je me rappelle avoir arpenté le couloir de notre appart de nombreuses fois. Et c'est vrai que sur les premières semaines, mois, ce qui n'était pas forcément. Enfin là où on se dit ce que ça implique, on va dire, c'était sur le côté les soirées libres à deux en fait. En fait, avoir un temps à deux pour se retrouver. Ça, on n'a pas eu tout de suite, et ça, je trouve que c'était difficile, parce que on avait que le côté, enfin, la journée, le boulot, et puis le soir, le relais, etc. Et quand elle s'endormait enfin, on n'avait pas de temps de décompression à deux. Et ça, je trouve que c'était peut-être le plus, le côté où, en effet, on a un bébé, quoi. Ça demande du boulot. Et c'est dur de dire, quand est-ce qu'on va retrouver le couple? Là-dedans, on se rend compte assez rapidement que tout n'est que phase et que en fait, ça ne devient pas ton présent de devoir te promener 1 heure ou 2 dans l'appartement avec un bébé, quoi. Donc on relativise assez rapidement et au fur et à mesure, tout se met en place. Je me rappelle, comme en plus, on était les premiers à avoir un bébé dans nos groupes d'amis, il y avait bah, des. Sans dire des décalages, parce que ça a toujours été très adaptable, on a toujours réussi à continuer même notre vie sociale comme avant avec Ellie. Donc ça a toujours été vraiment très très facilitant, très agréable. Mais un truc tout bête, c'était à l'époque de la hype de Game of Thrones.
Ouais.
Et du coup, les gens, ils laissaient, enfin, l'épisode sortait, le soir même, tout le monde l'avait vu.
Eh oui, et pas toi.
Nous, on l'a. Et pas toi. Donc, les copains au boulot. Et le lendemain, j'avais l'impression, des fois, de devoir éviter les spoils, mais tout le temps.
Je comprends.
Et on a, en fait, oui, on avait du mal, en fait, tout bêtement, à se retrouver un repas, une série, un truc tout simple, quoi. De canapé. Voilà, les premiers temps. Mais tout en étant récompensé par. Une multitude de moments de bonheur avec Ellie, quoi. T'es déjà très éveillée, très souriante, et ça, c'est vrai qu'on bah, y a aussi beaucoup, beaucoup de plaisir, quoi, dans ces premiers temps.
Moi, je me rappelle m'être fait la remarque de me dire, c'est marrant parce que tout est pareil, mais tout est différent.
Ouais.
Tout est pareil, c'est la même maison.
Ouais. Ouais.
C'est les mêmes personnes. Ok, il y a une personne en plus, mais alors, tout est différent, quoi. Il n'y a pas un
Ouais.
moment qui se ressemble, quoi.
Non, c'est clair.
Donc c'est vraiment quelque chose d'intense. Donc à ce moment-là, si je comprends bien, parce que tu parles de boulot, donc tu travaillais, c'est ça?
Ouais.
Et tu avais pu prendre ton congé paternité?
Ouais, j'avais. Ça s'était bien goupillé, mais en plus, c'était un nouveau boulot. Enfin, j'avais changé un peu avant l'accouchement. Ça faisait peut-être, en tout cas, moins de 2 mois que j'avais pris mon poste au moment où elle est arrivée. Mais j'ai réussi à enchaîner. En tout, j'ai réussi à avoir 1 mois entre
Ouais.
le congé paternité et puis voilà, des vacances anticipées par-ci par-là. Un mois complet, ce qui est quand même très très court.
Ce qui est quand même très très court, on est bien
Ouais,
d'accord.
vraiment.
Voilà, donc comme je dis
Parce
souvent
que.
quand on parle du sujet, Adrien Taquet, si vous écoutez cet épisode un jour,
Hein?
vous ou peut-être la personne qui sera à votre poste un peu plus tard, faut continuer sur le congé paternité, c'est pas fini, hein.
Non, mais. Et puis, on passe notre temps à comparer aussi. Le modèle suédois, à chaque fois, elle me dit, mais. Quel bon sens, c'est génial hein, de pouvoir, en l'occurrence, prendre 6 mois ou en tout cas partager 6 mois chacun et que tous les papas le fassent et qu'il y ait une forme de paternité solidaire, d'expérience de jeune papa commune au sein de la société. Alors que là, c'est presque, on te regarde avec des gros yeux si tu prends plus des 15 jours autorisés. Bon, même si ça a tendance à évoluer. Mais pas assez
Mais quand
rapidement
même,
quand même.
ça
Ouais.
reste léger.
Non, mais ils sont tout
Et
petits, quoi.
alors pour le coup, bon, on parlera dans un épisode bonus du deuxième enfant. Et avant l'arrivée de votre deuxième enfant, comment ça s'est fait un petit peu là? Si tu devais résumer un peu ta paternité depuis, votre parcours depuis, voilà, avec Ellie, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des phases, comme tu dis, qui ont été vraiment difficiles, d'autres qui ont glissé toutes seules?
Dans les grandes lignes, non, j'ai l'impression de m'être épanoui au fur et à mesure dans ce nouveau rôle-là. Mais c'est vrai que c'est très difficile de, enfin, c'est continu en fait. C'est comme un apprentissage continu et c'est dur de se voir soi-même en évoluer dans la paternité. Là, ça me marque, enfin en tout cas je vois clairement la différence avec l'arrivée du deuxième, où genre l'approche est totalement différente, en tout cas moi, pour Ellie, oui c'était des phases, mais progrès, enfin les phases de l'enfant, et elle a toujours été une petite fille très éveillée, très énergique et très souriante, donc ça a toujours été très agréable, rarement malade aussi. Donc, à part des phases compliquées que passent par tous les enfants, enfin, elle, ça a été l'endormissement jusqu'à assez tard, mais ou alors problème de digestion, enfin voilà, avec des pleurs difficiles parfois à gérer, les dents pas trop, mais voilà. Après, c'est les phases classiques. J'avais l'impression qu'on prenait aussi en confiance et aussi avec notre prise de conscience sur comment on veut être parent. En fait. Notre empuissantement en tant que parent, plutôt que de se contenter de reproduire un schéma, on rapidement, plutôt impulsé par des questions qu'on se posait et des recherches qu'on faisait, Fanny en tête, mais je suivais derrière, j'étais quand même curieux de tout de remettre en question. Et je pense que l'arrivée d'Eli, le fait d'être père, ça m'a aussi fait grandir en tant que moi. Dans le sens où ça fait remettre tout en perspective hein, la priorité des choses, la hiérarchie des choses importantes, des valeurs, etc. Et c'est vrai que tout de suite, le côté boulot ou des attentes de la société ou l'enfant il doit être comme ça, on a déconstruit beaucoup de choses.
Comment
Et
tu
par
t'es senti,
exemple.
toi? Vas-y, pardon.
En fait, tout ce qu'on faisait avait un impact positif, en tout cas, par rapport à ce que nous on mettait en place. Finalement, c'était à chaque fois, soit on voyait que ça avait un effet positif sur elle, soit on voyait que nous on le vivait mieux ou que c'était plus facile, que c'était pas contre nature et que en fait on trouvait nos marques. Et ça, c'était, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant, et surtout que en parallèle, je pense que c'est une phase où moi j'ai beaucoup évolué, je pense, avec le recul, autant dans ma déconstruction d'homme, que prise de conscience écologique par rapport bah là on pense beaucoup, on pense au monde de demain, mais on pense pas au monde de demain de soi, on pense au monde de demain qu'on va laisser aux enfants. Et ça a été un gros pivot, moi, dans ma vie et dans le sens des priorités. Et en fait, tout s'est fait ensemble, quoi. Genre, ben, quelle société on est et quelle société on sera demain, le monde de demain, la planète, qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants, du coup, les valeurs éducatives, les principes éducatifs, toutes ces choses-là. Qui sont ouais, qui ont évolué en même temps que Ellie grandissait, qu'on voyait que ce qu'on appliquait était en tout cas nous correspondait et lui apportait quelque chose, quoi.
Et au niveau de ton rôle de père, est-ce que tu t'es retrouvé face à ce qu'on peut régulièrement ressentir dans notre société, c'est-à-dire avec ce sujet de père, figure d'autorité, garant de l'obéissance? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a percuté, peut-être juste par moment? Est-ce que tu as retrouvé, est-ce que tu t'es retrouvé en difficulté des fois face à ton enfant, clairement dans le sujet de la violence éducative, quoi?
Ouais. Alors vraiment pas trop personnellement parce que déjà je pense que déjà même avant même d'avoir des enfants, même le c'est mon côté un peu mon côté rebelle, mais déjà le principe de mode d'obéissance, il m'énerve. Donc ça m'énervait déjà
Ouais,
quand
voilà.
moi j'étais enfant.
Si on laisse
Donc il
les
y
hippies faire des
avait
gosses, c'est pas la peine.
Ouais. Écoute, non, mais c'est vrai que déjà, en tout cas, ce qui était sûr, c'est que toutes les choses que moi j'avais vécues petit et dont je me souvenais, soit où je ressentais de l'injustice ou de la colère, et quel type de enfin de contexte, de remarques ou de choses comme ça me mettait dans un état où je me rappelle encore, quoi. M'étais dit déjà d'office, ça, j'essaie de ne pas le reproduire, quoi. Et après, il y a beaucoup de choses qui se sont construites autour de ça, ou dans l'apprentissage de beaucoup de choses de l'éducation bienveillante. Enfin, après, les termes, on peut mettre. Enfin, voilà, on peut digresser longtemps sur tout ça, mais. Non, non. Après, par contre, sur le truc. Enfin, sur le terme d'autorité, malgré tout, on a une forme d'autorité en tant que parent. Et moi, je l'ai toujours vu plutôt qu'une autorité, une responsabilité de bien-être de l'enfant, en tout cas qu'il évite de se mettre en danger. C'est vrai qu'un comportement dangereux, ça pouvait faire ressortir des je pense que c'est les premières fois où ma voix de papa est sortie, quoi. Je me dis, putain, mais j'ai une voix de papa, en fait. C'est cette fameuse, le moment où même l'enfant, il comprend que là, tu rigoles pas, en fait. Et dis, ah, mais je suis capable d'avoir cette autorité, en fait, parce que j'ai jamais eu une attitude ou un caractère à vouloir m'imposer, que ce soit professionnel, amicalement ou autre. J'aime bien le débat, j'aime bien m'énerver, mais vraiment imposer quelque chose, je l'avais jamais fait avant de me dire non, ça c'est pas possible, ça là tu te mets en danger ou c'est trop dangereux ou peu importe, mais c'est venu plutôt de ça, la
D'accord.
voix de papa, j'appelais.
Pour finir sur cet épisode, j'aimerais te poser une question qui n'était pas dans la liste. C'est la petite
D'accord.
question surprise de la fin. C'est qu'est-ce que tu aimerais te dire à toi si tu pouvais revenir des quelques années en arrière, tu vois, quelques mois avant la naissance d'Élie. Tu vas être papa très très bientôt de manière physique et très concrète. Qu'est-ce que tu aimerais te dire? Juste à toi,
Ouais, juste à
entre
moi.
vous, quoi.
T'inquiète, tout va bien se passer. Fais-toi confiance. Écoute-toi. Ouais, je pense que ça serait vraiment un message dans trouve toi-même. Enfin voilà, fais-toi confiance et écoute-toi, ouais.
Ok. Merci beaucoup, Thibaut.
Bah, merci Cédric.
À bientôt.
Salut.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt. Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.